Alors, je passe la parole à Albert Nguyen. Je cite ton titre alors. Oui. Intelligence artificielle versus intelligence psychanalytique.
Pour cette... Pour cette intervention, j'ai essayé de m'expliquer cette formule de Lacan et non son contraire. Et surtout, je me suis posé la question de savoir si elle conservait sa valeur dans la société actuelle. Je suis parti de ce point qui occupe une place grandissante dans nos vies. L'IA, comme ils disent, l'intelligence artificielle, l'IA, qui signe le début d'un grand chambardement civilisationnel pour y opposer ce que j'ai appelé l'intelligence psychanalytique. Pour répondre à la question, j'ai pris pour commencer quelques repères dans l'enseignement de Lacan à partir de l'idée qu'il n'a cessé de poser, de se poser la question de ce qu'est l'inconscient. Et nous savons qu'il a donné des réponses à chaque fois détaillées. L'inconscient est le terme majeur de la formule. La formule, l'inconscient, c'est la politique. Je prends donc quelques repères. Le premier, fonction et champ de la parole et du langage. Je commence par ce qui a été souvent relevé et concerne le psychanalyste, appelé à se situer par rapport à l'horizon de la subjectivité de son époque. Et il y a évidemment beaucoup à dire sur la subjectivité de notre époque. Cette place du psychanalyste est déclinée par Lacan très précisément. Je le cite. « Qu'il connaisse bien l'aspire où son époque l'entraîne et qu'il sache la fonction d'interprète dans la discorde des langages. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces phrases de Lacan sont d'une exacte actualité. Ensuite, deuxième repère, l'instance de la lettre. Texte que Lacan termine par une invitation, une exhortation à l'indignation. Je le cite. « Je vous invite à vous indigner, écrit-il. » Mais nous indigner de quoi ? Qu'après tant de siècles d'hypocrisie religieuse et d'esbroufe philosophique, rien n'ait été encore valablement articulé de ce qui lie la métaphore à la question de l'être et la métonymie à son manque. Et il convoque pour y répondre l'homme de l'humanisme. Le religieux, sous sa forme égarée, nous concerne. Et pour ce qui est de notre actualité, nous avons à penser la psychanalyse face à l'essor vertigineux, pour bien le dire, des biotechnologies, des neurosciences, de la cybernétique et de la robotique, qui vont jusqu'à remettre en question l'existence du langage, qu'il faudrait supprimer, dont on pourrait se passer, puisque, comme le dit Kevin Warwick, qui est un chercheur anglais qui se promène un peu partout dans le monde et fait des conférences. Le langage, dit-il, est la cause de tous les malentendus. Et il n'y a pas de langue qui soit équivoque. D'accord. D'où sa proposition. Connectons les cerveaux à partir d'un capteur implanté dans le bras et à distance, il est possible de provoquer des mouvements du bras de sa partenaire, lui étant à New York, elle étant à Londres. Par chance, la partenaire ne veut pas se faire implanter. Elle est raisonnable.
Absolument.
On peut écouter des conférences de ce type qui est fort sympathique, qui fait beaucoup d'humour dans ses interventions, mais qui débloque un petit peu à un moment, quoi. Et qui est très, faire attention parce qu'il est très suivi dans ses élaborations. Et il a évidemment de l'argent pour faire ses expériences. Dans l'instance de la lettre, le texte est fait pour redonner sa juste place à la découverte de l'inconscient freudien. Les termes sont forts, les termes de Lacan sont forts. Il écrit « Si l'on méconnaît l'excentricité radicale de soi à lui-même, à quoi l'homme est affronté, quelle en sera la conséquence, on faillira sur l'ordre et les voies de la méditation, médiation de la psychanalytique. Et deuxième conséquence, on en fera de l'analyse l'opération de compromis. Le retour au compromis, qu'il soit explicite, je cite toujours Lacan, le recours au compromis, qu'il soit explicite ou implicite, désoriente l'action psychanalytique et la plonge dans la nuit. Si je puis dire, l'exigence de Lacan ne se dément pas dans la suite, puisqu'il parle d'hétéronomie radicale, après l'excentricité radicale, dont la découverte de Freud a montré dans l'homme l'abéance ne peut plus être recouverte, sauf à faire preuve d'une malhonnêteté foncière. La fin du texte pose bien l'enjeu pour les psychanalystes. À toucher si peu que ce soit à la relation de l'homme au signifiant, on change le cours de son histoire, en modifiant les amarres de son être. Les amarres, il les définit d'une anticipation que nous ne pouvons pas manquer, si nous nous rappelons ce qui est notre chance les dernières années de l'enseignement de Lacan. Le terme, il écrit dans l'instant de la lettre, le terme de chaîne signifiante, dont juste d'ordinaire, donne une approximation. Deux points. Anneau, dont le collier se scelle dans l'anneau d'un autre collier, fait d'anneau. Troisième repère, je passe plus rapidement, le séminaire 11, à la fin du séminaire, et la proposition de la passe et sa troisième facticité, pour laquelle Lacan évoque les remaniements des groupes sociaux par la science et nommément l'universalisation qu'elle y introduit. Notre avenir de marché commun trouvera sa balance d'une extension de plus en plus dure des procès de ségrégation. Eh bien, nous y sommes. Quatrième repère, l'envers de la psychanalyse, c'est 1968, les discours dans le capitaliste, pour lequel Frédéric vient de nous dire que ce n'était pas un discours, particulièrement le chapitre « Les sillons de la léthosphère ». La caractéristique de notre science n'est pas d'avoir introduit une connaissance du monde meilleure et plus étendue, mais d'avoir fait surgir au monde des choses qui n'y existaient d'aucune façon au niveau de notre perception. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la science n'a pas faibli depuis. Je passe sur le résumé d'Oupire où Lacan énonce la nécessité de mettre l'éthique au pas de la psychanalyse. Au fond, on pourrait dire l'inconscience et l'éthique. Et enfin, cinquième repère, la conférence, la troisième. Nombre d'entre vous connaissent ça. La question tourne autour du réel et de son destin, et il s'agit de l'avenir de la psychanalyse. L'avenir de l'analyse est quelque chose, je le cite, l'avenir de l'analyse est quelque chose qui dépend de ce qu'il adviendra du réel, à savoir si les gadgets, à l'époque où Lacan dit ça, c'était pour les plus anciens d'entre nous, la radio, la télé, les avions, le Minitel.
Déjà,
et le fax arrivé. Et puis on allait sur la lune. Donc Lacan se posait la question de savoir si les gadgets, par exemple, écrivait-il, gagneront vraiment à la main, si nous arriverons à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets. Il ajoutait, je dois dire que ça me paraît peu probable. Lacan n'a pas connu l'ordinateur. ordinateurs, les smartphones, les tablettes, les laptops. Extraordinaire développement d'Internet. Symptôme, on pourrait dire, largement partagé aujourd'hui. Il ajoutait même, nous n'arriverons pas à faire que le gadget ne soit pas un symptôme. Et vous savez qu'il poursuit dans ce texte avec la place du phallus dans le non-rapport et la bagnole comme fausse femme. Lacan ne connaissait pas la Google Car, ni l'hyperloop d'Elon Musk, qui n'est pas encore arrivé. Ces quelques repères prélevés chez Lacan montrent comment il a pris ce problème du face-à-face de l'analyse et de la technoscience et les réponses qu'il y a apportées à partir de son expérience de l'analyse et de l'inconscient. Ce qui est une indication pour nous. J'appelle ça sa formidable anticipation. Donc je m'en tiens là pour les repères de l'inconscient et j'en viens à cette fameuse IA. IA. Lacan n'a pas connu cette nouvelle révolution, ce qui ne nous dispense pas de nous y intéresser. Et d'ailleurs, nous n'avons et nous n'aurons pas le choix. Ce d'autant que le développement exponentiel de l'intelligence artificielle provoquera un grand chambardement civilisationnel dont les conséquences économiques et politiques ne manqueront pas, et ont d'ailleurs déjà commencé. Et d'autre part, l'IA, qu'on le veuille ou non, est déjà largement entrée dans nos vies. Je dis tout de suite qu'il me semble important de ne pas se laisser fasciner par l'inflation d'articles sur le sujet, enfin de conférences, YouTube, etc. Mais pour restreindre le champ, on peut lire un livre qui est recommandable, d'après moi, au titre évocateur, « La guerre des intelligences ». C'est de Laurent Alexandre, c'est publié chez Lattès. Il vaut mieux ne pas se fasciner, d'accord, mais il vaut mieux s'informer. Je brosse à grands traits ce qui nous attend, paraît-il, à brève échéance. Premièrement, le trait le plus important réside dans l'alliance des GAFA et des NBIC avec l'IA, puisque c'est doté les recherches en IA d'investissements colossaux via les objets connectés et le big data. Alliance à laquelle nous participons tous en entrant des données gratuitement dans nos ordinateurs sur Google ou Amazon, assurant ainsi le développement de l'IA. Deuxièmement, d'autre part, facteur important, la rivalité entre la Silicon Valley, donc les GAFA, et les Chinois du BATX, B-A-T-X, c'est l'équivalent des GAFA. Je vous passe les noms chinois. Et puis, l'impossibilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de nous passer des objets connectés et des réseaux sociaux. La NAS s'est refermée, au fond, sur l'ensemble de la planète. L'alliance des biotechnologies qui s'intéresse aux vivants, à modifier, à transformer, et de la financiarisation mondiale, le fantasme du tout numérique et la dématérialisation généralisée, promet à l'humanité un avenir qui risque de se jouer entre la version transhumaniste, qui va du soft au hard, un peu terrifiant, d'augmentation de l'humain, et le rapport de l'humain à la machine. L'enjeu, en tout cas, pour les tenants de cette transformation sociétale, est simple. Jusqu'à quand l'homme dominera la machine ? La machine boostée à l'IA prendra-t-elle le pas sur l'homme, par exemple avec une intention hostile? On aimerait que ce que Lacan disait dans la troisième se vérifie, mais rien n'est moins sûr. Nous n'en sommes pas là. L'IA est pour le moment faible, mais gare à l'IA forte. Si jamais ce saut se produit, et qu'elle devient opérationnelle. L'impressionnant en la matière est la vitesse de développement de l'IA, qui a réellement commencé avec les premiers algorithmes en 2010, il n'y a pas très longtemps. En 2012, un grand pas a été fait avec le deep learning. C'est un traitement statistique. Mais c'est en 2017 que la puissance de l'IA s'est révélée. Donc, très récemment. Bien qu'il s'agisse encore d'IA faible, mais capable d'être contextuelle. La machine peut réfléchir à un sujet en intégrant des éléments de contexte et le passé. Par exemple, reconnaître une voiture de 1920, sans qu'on lui ait présenté d'abord, évidemment, ou inventer le concept de chat. Les capacités de calcul à la seconde ont été dopées par la puissance actuelle des ordinateurs. Par exemple, ils sont capables actuellement de traiter 300 millions de milliards d'informations en une seconde. Ça va vite, hein. Et c'est encore trop peu pour arriver à l'IA forte. Et puis c'est un peu déprimant pour nos cerveaux. Ah oui. Dernier point qui montre les progrès de cette IA faible, AlphaGo. AlphaGo, l'ordinateur, qui a vaincu sans problème le champion du monde de Go. C'est un progrès important parce que, pourquoi ? Parce que si les échecs, vous savez que Kasparov a perdu il y a longtemps contre l'ordinateur, si les échecs sont un jeu mathématique, le jeu de Go, lui, est un jeu intuitif. Et donc, beaucoup plus complexe pour l'ordinateur. N'empêche. Alors, les conséquences. On peut déjà en tirer quelques-unes. Elles sont éthiques, politiques, économiques. Éthiques, avec le développement des biotechnologies. Politiques, avec les problèmes de gouvernance et les mouvements sociaux. Économique, puisque la valeur travail est menacée. Quelques hommes plutôt jeunes détiennent aujourd'hui le pouvoir sur la planète. Et sans doute peut-on considérer que ce pouvoir est dangereux, puisque, à la suite de Stephen Hawking, qui impute à l'IA le risque de destruction de l'espèce humaine, Bill Gates et Elon Musk l'ont rejoint dans cette analyse. Il est vrai avec un but différent, puisque Bill Gates intervient dans les pays pauvres, avec des énormes campagnes de vaccination, etc. Bon. Alors que Musk a créé Neuralink. Neuralink pour augmenter les capacités du cerveau humain, ce qui permettrait de garder l'avantage sur la machine. Le problème, c'est qu'il faudrait se connecter. Il faudrait se faire implanter un petit capteur. C'est ça. La disparition des frontières, l'accroissement des inégalités, la faiblesse des gouvernements face à ces bouleversements, l'éducation, la question du devenir du travail ne détourne pas les ténors de la Silicon Valley, de leurs projets pour le bien de l'humanité et l'homme meilleur. Dès lors qu'ils l'auront augmenté, bien entendu. Il faut dire qu'ils savent vendre ce projet, en mettant en avant les résultats spectaculaires en médecine, par exemple, pour le diagnostic, et bientôt pour les traitements des cancers, en radiologie, en dermatologie, enfin, tous ces métiers vont disparaître, si on les croit, enfin, si on les suit. Et puis, ils mettent aussi en avant les modifications du vivant. Alors, il y a le transhumanisme que j'ai évoqué. Il y a aussi tout le champ des prothèses, des maladies, du traitement des maladies neurodégénératives, Parkinson, de l'Alzheimer. Et puis, les thérapies géniques, qui posent un problème parce que on ne sait pas ce que ça donnera. De changer un gène. de quelqu'un. Il paraît que ça peut guérir une maladie, mais que ça peut déclencher des catastrophes par ailleurs. Ils n'en tiennent pas compte. Hein. En tout cas, il y a un type qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est Testard, Jacques Testard, qui est celui qui a fait le premier bébé éprouvette. Et lui s'insurge vraiment contre toutes ces manipulations géniques. Alors, face au possible dérapage éthique, en réponse, la bioéthique se développe, évidemment. Et il me semble que ça peut intéresser les analystes. Mais il faut bien dire qu'ils sont absents de ce débat transversal qui regroupe, par exemple, dans le cadre d'une manifestation importante qui s'appelle le Forum européen de bioéthique, qui a lieu tous les ans, à Strasbourg, pas très loin d'ici, où débattent des patrons de médecine, des biologistes, des neuroscientifiques, des philosophes, des anthropologues, des travailleurs de la santé, des transhumanistes, des chercheurs en IA, mais pas de psychanalystes. Le colloque de 2017 traitait de humain ou post-humain. Et les débats sont assez animés. Les analystes pourraient-ils participer à ces débats? Je pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Pour faire un premier pas, il me semble que la question de l'inconscient pourrait être débattue avec les neurosciences, parce qu'elle leur pose un problème. Vous savez qu'ils essaient de tout modéliser. Où localiser l'inconscient dans le cerveau? L'inconscient est-il une production du cerveau? Les neurosciences modélisent, mais l'inconscient, comment le modéliser? J'en viens donc à mon dernier point, si je puis dire, la question de l'intelligence psychanalytique, réglée sur le retour à Lacan, dans la mesure où son enseignement, à partir d'encore, nous donne des outils, et surtout débouche sur une définition de l'inconscient qui diffère de l'inconscient langage et qui me paraît adéquate pour affronter la clinique d'aujourd'hui, qui est une clinique des sujets connectés à leurs gadgets, mais surtout à leur jouissance. Je fais l'hypothèse, peut-être par trop optimiste, qu'au-delà de s'informer, les psychanalystes pourraient soutenir les questions telles qu'elles se posent dans notre actualité psychanalytique. La question de l'abéance du sujet, la question de l'humain, du trait d'humanité, la question de l'éthique, de l'inconscient réel, et la question de la lettre face à la profusion des connexions et autres augmentations. Lacan, incontestablement, avait cette intelligence psychanalytique. Je ne crois pas qu'ici, quiconque conteste ça. L'intelligence, c'est son éthique. Permet de lire entre les lignes. C'est la tâche quotidienne des psychanalystes. D'autre part, la cure individuelle n'a de portée qu'à produire un effet sur le lien social. Pour Freud et pour Lacan, cette préoccupation est constante. Freud parlait quelque part de l'achèvement de l'analyse dans le collectif. Quant à Lacan, il est allé jusqu'à évoquer l'inutilité de la sortie du discours capitaliste, si ce n'est que pour quelques-uns. Ensuite, je crois que l'analyse en extension donne la possibilité de diffuser le discours analytique, d'en soutenir la spécificité et le débat avec les autres champs du savoir. Nombre d'entre nous ne sont pas des novices dans la lecture de Lacan. Mais il faut encore une fois lui reconnaître, à Lacan, ce trait de génie. Avoir anticipé, il y a 40 ans, le point auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir la place que prend la machine dans la vie des paramètres, au point de mettre en péril, demain, l'humain dans l'homme. L'enjeu est énorme de ce qu'il y a lieu de faire pour résister et se protéger face à l'empire siliciumé, du silicium, qui se profile. L'intelligence psychanalytique de Lacan réside dans l'extraordinaire capacité d'anticipation dont il a fait preuve, c'est-à-dire rien moins qu'une capacité de prédire. Je note que Yann Leca, un Français, tête pensante de Facebook, affirme clairement, rejoint en cela par Attali, que le principal problème que l'IA rencontre dans son développement, c'est qu'elle ne sait pas prédire. Et que c'est en cela que l'humain garde l'avantage sur la machine. Prédire est une qualité, à ce jour en tout cas, réservée au cerveau humain. Ce que je veux souligner, c'est mon hypothèse. C'est que la vista de Lacan, qui contrairement à nous ne disposait pas des transformations qui se sont produites ces 20 dernières années, sa vista lui a permis d'anticiper, à partir du développement de sa doctrine de l'inconscient et des conséquences qu'il en a tirées, essentiellement autour de deux basculements, la mise en place des jouissances et l'inconscient comme écriture. Mais écriture spéciale, puisqu'il s'agit de l'écriture du nœud, qui a marqué le passage de l'inconscient langage à l'inconscient réel, l'inconscient qui s'écrit. La clinique, dans le même temps, s'est déplacée du fantasme vers le symptôme. Nous sommes dans la phase transitoire du processus. Nous recevons des sujets connectés, mais qui ne sont pas pour autant exempts de difficultés dans le lien social, dans la relation à leur partenaire, qui souffrent de symptômes sexuels. Il n'empêche que la place qu'ont pris les écrans ne facilite ni la parole, ni la mise en question de leur jouissance. Le problème, évidemment, sera tout autre si ces sujets deviennent augmentés, sans parler de cerveaux fusionnés à l'ordinateur. Alors, au terme de cette réflexion que j'aimerais partager, subsiste une question que je me pose et que je vous pose. Les analystes seront-ils capables de faire preuve de cette intelligence psychanalytique dont Lacan a montré la voie ? Serons-nous capables, à partir de la clinique et des avancées théoriques, de prédire, d'anticiper les problèmes à venir ? Il me semble que se dessine là une perspective nécessaire pour répondre aux sujets connectés, qui, sous peu, seront à l'égal des acteurs du film Heure dans l'impossibilité de se penser déconnecté. Quid alors de la question de l'autre et du manque de garantie de la division subjective ? Le film montre très bien que lorsque la déconnexion se produit entre les deux personnages connectés, elle déclenche panique, angoisse et dépersonnalisation. Songez aux adolescents, et peut-être pas seulement aux adolescents d'aujourd'hui, qui ne peuvent imaginer une déconnexion inopinée de leur smartphone, par exemple. Le smartphone est devenu un prolongement du corps, le partenaire. Ils sont nés avec, sont captés par les écrans dès l'enfance. Ces objets font partie de leur monde, font leur monde. Ils ne s'imaginent pas sans. Il est vrai que nous-mêmes aurions sans doute du mal à nous passer du téléphone ou d'Internet. La prédominance de la jouissance dans les difficultés que nous rencontrons, spécialement pour terminer les cures, peut nous orienter dans nos élaborations sur le changement de régime de la jouissance qu'une analyse peut obtenir. Pour autant, au milieu de tous ces bios auxquels nous avons affaire, nous ne pouvons pas sombrer dans l'analyse bio, mais préférer l'approfondissement permanent de l'inconscient et du travail à partir de l'inconscient, soit les fondements de la pratique, dans le fil de Lacan. Au fond, c'est déplier la réponse à la question que posait Lacan quant au devenir de la pulsion, manière d'accentuer la constance d'anticipation avec laquelle il avait, à partir d'une théorie de la fin qui portait sur le fantasme, aperçu ce à quoi la mise au point de RSI allait le mener. Et c'est devant cette question que nous sommes. Saurons-nous prédire et donc avancer sur la voie ouverte par Lacan car me semble-t-il, il ne sera pas suffisant de répéter Lacan. Même si la formule qui fait le titre de ce séminaire peut se soutenir du début à la toute fin de l'enseignement, qui culmine avec le poème qui s'écrit. L'analyste écrit, l'écriture est son dire. De toute façon, pour prédire, il faut commencer par dire. Je vous remercie.